the grid. A digital frontier. I tried to picture clusters of information as they moved through the computer. What did they look like? Ships? Motorcycles? Were the circuits like freeways? I kept dreaming of a world I thought I'd never see. And then, one day...
You got in.
That's right, man. I got in.
Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Vision X, l'émission dans laquelle deux geeks décortiquent pour vous des films d'hier aujourd'hui. Je m'appelle Sébastien Belmiro, je vous présente tout de suite mon co-animateur, David Jonf. David.
Bonsoir Sébastien.
Comment ça va?
Ça va bien. Presque un an plus tard.
Il me semble que j'ai vu, c'était comme en 2018 la dernière fois qu'on a enregistré l'épisode de Vision X.
Moi, ce que j'ai vu, c'est le 24 juillet 2019.
Ah, OK. Bon, ben, 24 juillet 2019, presque un an plus tard.
24 juillet 2019, mais celui-là d'avant, c'est le 8 septembre 2018.
Fait que...
Ouais, ça fait un bout de temps. Mais parce que, pour être totalement franc, tu te rappelles, on a enregistré un épisode, mais le fichier a été corrompu.
Ah oui,
on
c'est vrai.
On a déjà eu un épisode 91, en fait. Et puis après ça, on s'était repris pour un autre film, mais on a eu des problèmes techniques à répétition, ouais. Fait que finalement, c'est comme tombé dans l'eau. Mais quoi de neuf depuis deux ans?
Rien, pas tout. Non, non, je pense à rien ces temps-ci, c'est tranquille, je sais pas pourquoi. C'est toi, je suis sûr que t'es très occupé en ce moment.
Depuis un an, je te dirais, mon fils...
Oui, c'est vrai.
C'est quand même une grosse affaire depuis le dernier épisode de Vision X. Mon fils qui a bientôt 10 mois, ma fille qui a 4 ans, fait que ouais, coronavirus en ce moment à la maison, je te dis qu'avec les deux enfants, c'est quand même rock and roll, c'est un peu raide. Les journées sont très longues grâce à ma fille de 4 ans et les nuits sont très courtes grâce à mon fils de 10 mois. C'est quand même malade. Ah non, mais il faut que je te parle de mon fils. Hein. C'est un hobbit, man. Premier, ben évidemment, ben, il est petit, ben pour son. Tu sais, moi, je fais 6 pieds presque 5. Là. Fait qu'évidemment, mes enfants sont grands aussi. Mais comme il y a 10 mois, ben il est petit. Il est à peu près la grandeur d'un hobbit. Et puis, il y a du poil un petit peu partout, à des endroits weird. Et il mange 25 repas par jour. Il mange son déjeuner. Après ça, il y a le second breakfast et le third breakfast parce qu'il mange son déjeuner à lui, il mange la moitié de mon déjeuner à moi. Il finit le déjeuner de sa grande sœur. Ensuite de ça, il y a la collation d'après-midi. Après ça, il y a l'early dinner, il y a le late dinner. Après ça, il y a la collation du début de l'avant-midi, le afternoon tea, le celui de l'après-midi. Après ça, il y a le souper, il y a souvent une collation avant d'aller faire de l'eau. Puis avec tout ça, il y a genre 6 boires dans la journée.
Ben voyons donc.
Ah non, mais ça n'a pas de bon sens. Là. C'est un glouton. Il a mangé quelque chose comme un quart de melon d'eau cet après-midi.
Quoi? Un quart de melon d'eau?
Non, mais c'est écœurant.
Même... Dis-moi, là.
Tu donnes ça, là, puis il mange, 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 sans arrêt. C'est un hobbit. C'est vraiment fascinant.
Ah, j'ai hâte de revoir la face. La dernière fois que je l'ai vu, il était tout petit. Ah, écoute.
Ben, il est de moins en moins, je te dirais.
Oh, dites-vous de marde. Mais bon, on s'amuse quand même. On n'a pas le choix.
Oui.
Fait que, est-ce que tu veux qu'on aille direct dans la viande de l'émission?
Allons-y, mon cher.
Présente-nous le film, David.
Cette semaine, ou enfin ce mois-ci, cette année, nous parlons de... Tron Legacy, ou en français c'est Tron l'héritage, si je ne m'abuse.
Ouais, oui.
Donc essentiellement Flynn, le Sam Flynn de l'original de Tron, est essentiellement, c'est un punch un peu, mais en tout cas bref, il est coincé dans l'univers de Tron, dans le grid, et son fils qui pense qu'il est orphelin, finit par aller retrouver son père, et en essayant de sortir du grid, rencontre des ennemis, dont une espèce de clone de son père, et en sortant, détruit toute l'affaire. Mais le punch du film, c'est que Sam Flynn a été témoin d'une création spontanée, d'une nouvelle race, d'une nouvelle entité, une nouvelle forme de vie. Et en sortant du grid, le fils de Flynn emmène avec elle une Aizo, du nom de Quora.
Bien résumé. Maintenant, tu sais que ce film-là fait partie, moi, de ma liste de films que je voudrais qu'il soit vraiment bon.
Ah oui?
Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je sais pas si t'as le même feeling que moi.
Ben, tu sais, je parlais de ce film-là un petit peu au souper avec ma femme, puis je lui disais, tu sais, c'est un bon film. C'est pas un grand film, mais c'est un bon film. C'est dans le sens où c'est un petit 2 heures qui te divertit. Ça va te changer l'histoire du cinéma? Non, comme beaucoup de films qu'on voit à Vision X. Mais donc, ça nous permet d'un peu se rafraîchir puis de changer les idées. C'est vraiment, vraiment beau à voir. Mais bon, l'histoire, on en reparlera dans quelques secondes. C'est pas un grand chef-d'œuvre d'écriture. Mais moi, effectivement, c'est un film qu'on souhaiterait être hallucinant. Mmh. Mais c'est vraiment loin d'être mauvais.
Non, c'est pas mauvais. C'est vraiment... en fait, moi, je le décris comme une affaire. C'est, tu sais, c'est plein de bonnes intentions. Là. Vraiment, plein de bonnes idées. Il y a des choses tripantes. Là. Mais c'est comme... On dirait qu'ils n'ont pas été capables de connecter toutes ces idées-là. Puis de créer une histoire que tu...
Tu t'approches pas au personnage particulièrement. C'est ça. Tu veux que le personnage réussisse, que le héros réussisse ou non à sa quête. Bon, on s'en fout un peu. Mais c'est ça. Mais ce qui est intéressant de ce film-là, d'après moi, c'est vraiment l'aspect visuel. Puis ils ont mis beaucoup, beaucoup d'argent là-dessus. Ouais. Puis écoute, c'est quand même un film de 2010. Puis là, on enregistre en 2020. Donc ça fait 10 ans. On est allé voir ce film-là.
Ouais, on est allé voir ce film-là, ouais.
Puis, ça a super bien vieilli 10 ans plus tard.
Ouais.
Man, c'est magnifique.
Sauf une affaire, regarde, on va en parler tout de suite, là.
La face floue.
Ouais. Tu sais, parce qu'ils ont utilisé... Tu sais, c'est comme un des premiers films qui ont utilisé la technologie de, tu sais, qui appelle de de-aging, là. Tu sais, pour rajeunir Jeff Bridges pour qu'il ait l'air de lui... En 80 cuck, là, genre 82, à peu près, le premier Tron.
Quelque chose comme ça, l'original, ouais.
Puis, man, c'est terrible. Il a de l'air fait en plastique. On dirait qu'il a pris une poupée Ken, tu sais. Genre, c'est comme... poupée Ken de Jeff Bridges. Ça. Ouais, ça, c'est là, mais c'est ça, tu sais. Puis, tu sais, pour moi, parce que... Quand on l'a vu au cinéma, je me souviens d'avoir eu le même feeling de comme, ah, maudit que je voudrais que ça soit écœurant. Je l'ai revu plus tard, puis je me suis dit, ah, maudit que j'aimerais que ça soit écœurant. Parce que, moi, en tout cas, ce qui me frappe beaucoup de ce film-là, c'est le world building, tu sais, le monde autour, l'univers de Tron que tu fais comme, oh, tu sais, je voudrais des films, des séries télé, tu sais, je voudrais plein de choses là-dessus. Là.
Ben, de fait, à l'époque, ils ont sorti une série animée dont le personnage principal, l'acteur qui faisait la voix du personnage principal, c'était Elijah Wood.
Ah ouais?
Une série que j'ai écoutée. C'est bon. Ça livre la marchandise. C'est vraiment intéressant.
Ouais. Ah ben, je ne savais pas.
Ouais, tu écouteras ça. C'est comme une douzaine d'épisodes, là, si je me souviens bien. Je te dis ça de mémoire. Mais c'est vraiment pas si mal. Mais écoute, je pourrais-tu te proposer d'y aller en suivant l'ordre de Vision?
Oui, allons-y.
On s'étalera sur les détails les uns après les autres. Mais donc, oui, c'est ça. Parlons du scénario tout d'abord. C'est pas la plus grande histoire du siècle.
Non.
Surtout qu'ils ont essayé de jouer sur la nostalgie de l'époque. Donc, la même arcade, quand Sam Flynn rentre, rentre dans l'arcade, il se fait comme dématérialiser, là, comme son père, et quand il ressort de l'arcade, c'est le même building, c'est Quora qui demande c'est quoi le soleil, bon, il joue sur une espèce de comment je pourrais dire ça, de nostalgie, ouais. Sur l'époque, les années 80, les jeux vidéo, sur le fait aussi que les programmes, dans Tron, l'original, il y avait le concept que les programmes faisaient, c'était des espèces de gladiateurs qui ont continué à jouer là-dessus un peu, même si vraiment ça n'a pas rapport à cette scène-là. Mais visuellement, c'est très intéressant, mais ça apporte absolument rien. T'sais.
Vraiment pas. Non.
Mais du point de vue, comme tu dis, du world building, tout ça, c'est vraiment intéressant que finalement, Flynn a a essentiellement construit de zéro. Il a reconstruit un monde en entier de zéro. Donc, pour les programmes qui vivent là, il est Dieu.
Ouais.
Et puis, on voit bien ça dans la scène où Flynn fils, s'en va dans l'espèce de rave, le bar rave, et puis qui s'en va donc essayer de trouver un programme pour l'aider, machin. Les méchants se pointent, débarquent, une belle scène de combat. Et donc, Kevin Flynn, le père, arrive, puis il y a des gens qui se mettent à genoux, puis qui le vénèrent,
Littéralement.
T'sais. Fait que ça, j'ai trouvé que c'est des petits détails qui sont absolument magnifiques. Un autre détail que j'ai adoré, c'est qu'à un moment donné, il rentre sur une espèce de train, t'sais, qui va comme à la vitesse de la lumière. Puis là, il répare Quora sur le train.
Ouais.
Il n'y a absolument aucun vent. Il n'y a pas de vent. Je trouve ça magnifique. Parce qu'ils sont dans un programme. Il n'est pas supposé d'avoir du vent.
C'est vrai, ça.
C'est comme un espèce de petit train. Il n'y a pas un poil de cheveux qui bouge. C'est comme on entend la vitesse. Il y a comme une espèce de... C'est comme s'il y avait un frottement dans l'air, mais il n'y a pas de vent. Fait, il y a un paquet de petits détails comme ça que je trouve vraiment intéressant sur l'univers, la création de l'univers. Mais tu sais, pourquoi l'antenne est à l'autre bout du monde pour réussir à sortir de cet univers-là? Mais quand il est arrivé en plein milieu de la ville. Pourquoi il n'est pas arrivé où est-ce qu'il y avait l'antenne?
Ouais, ça,
pourquoi
c'est
il y a off-grid, on the grid, puis hein? Parce qu'il y a comme plein de détails comme ça qui n'ont pas de sens.
Parce que, tu sais, l'affaire du portail là, pour retourner, il l'explique un peu, dans le fond. Il dit « Ah, c'est parce qu'il l'a placé loin pour pas que les programmes se sauvent. » OK, c'est beau, mais pourquoi t'arrives en plein milieu de la ville quand t'arrives, tu sais?
Puis en plus de ça aussi, dans l'histoire, ils disent qu'à l'époque, ils faisaient des allers-retours à tous les jours.
Ouais.
Ils allaient là tous les jours, puis ils revenaient chez eux. Alors, ça veut dire qu'il fallait qu'ils retournent à l'antenne à tous les jours.
Ouais.
Ça marche pas dans la construction. Tu sais, en tant que maître de jeu à Donjon Dragon, là, moi je trouve que ça, là, ce concept-là, c'est vraiment de la merde.
Oui. Mais tu sais, c'est ça. C'est encore une fois, comme je te dis, il y a une série de bonnes idées, mais mal ficelées, tu sais, mal cousues. Tu sais, tout le principe, c'est qu'il y a des choses qui ont placé, des sujets qui ont placé dans le film qui n'ont jamais exploité assez. C'est comme justement Kevin Flynn, Dieu. Ça aurait été plus intéressant de développer ça. Parce que aussi, il y a tout un lien avec Kevin Flynn, où Dieu, il a créé les programmes et les a créés sans liberté, tu sais. Puis ils n'ont pas exploité l'autre parallèle des programmes qui veulent de la liberté. Ils sont conscients, ils sont. Tu sais, dans le fond, il a créé de la vie, mais il leur a donné un paramètre, puis vous restez dans cette petite boîte-là, tu sais. Fait que pourquoi ils n'ont pas exploité ça? Puis je trouve qu'il aurait pu s'en servir avec le tu sais, on the grid puis off the grid, justement. C'est comme, OK, vous êtes coincé dans la grid, vous pouvez pas sortir de la grid, mais il y a tout un monde autour. Pourquoi ils ont pas joué là-dessus?
Ah oui, très bonne idée. Puis tu sais, parce qu'en fait, ce que tu soulignes, c'est un très bon point. Puis je trouve que c'est particulièrement bien mis en valeur dans sa relation entre Kevin Flynn et Clou.
Ouais.
Parce qu'il s'est essentiellement cloné et à son clone informatique, il a donné le mandat de créer un monde parfait. Et en faisant ça, il a créé son ennemi ultime parce que Clou est prisonnier de cette requête-là. Il est prisonnier du fait qu'il doit créer un monde parfait. Et même à la fin, à la toute fin du film, il demande encore est-ce que j'ai réussi? Est-ce qu'on est dans la bonne voie? Est-ce que j'ai pas fait ce que tu m'as demandé? Oui, si t'as fait ce que je t'ai demandé, mais c'était pas ça le fondement de ma pensée. Tu sais, il y a comme il aurait tellement pu jouer là-dessus, ça aurait été magnifique. Mais ça, c'est une chose que j'avoue que j'aime bien du film, cette relation Kevin Flynn Clou, où il s'est créé son propre ennemi. Ouais. Ça, c'est une dynamique que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Par contre, une chose que je trouve absolument exécrable, c'est Tron. Le personnage de Tron.
Je comprends pas.
Qu'est-ce que c'est ça?
C'est
quoi le concept de ce personnage-là? Un personnage qu'on ne verra jamais à face, on ne l'entend pas parler. Il y a deux disques parce qu'il en a volé un à quelqu'un random dans la rue. Dans ce cas-là, pourquoi tout le monde n'a pas deux disques?
Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je pense... Maintenant, je vais essayer de te défendre. Ce qu'ils ont essayé de faire, c'est... Un, ils voulaient ramener Tron, parce que, tu sais, personnage qu'on a un attachement à, tu sais. Et ils ont voulu le corrompre, tu sais. C'est comme la version... Parce que là, on sait pas là, que c'est Rinsler, son nom. Là. C'est Tron. Puis là, oh, coup de théâtre, c'est Tron, tu sais. C'est juste, comme tout dans le film, ça a été mal utilisé, mal exploité. Et je pense qu'il était pogné aussi avec le fait que si on devait voir la face à Tron, il fallait de-ager aussi Bruce Boxleitner, tu sais. Et là, ça a déjà coûté une fortune et ça a pris beaucoup d'années à faire ce film-là, là. Juste à cause de ces affaires-là. Il n'aurait jamais été capable de le faire. Fait qu'ils ont juste dit, on va y garder son casque tout le long, tu sais.
Mais tous ces aspects-là me font vraiment penser, me font vraiment classer. Non, comment je pourrais dire ça? Ça me fait vraiment sentir, tu sais, ça sent le film qui a été longtemps, trop longtemps en pré-production. Et puis qu'il y a beaucoup trop de monde qui ont donné leur opinion sur un scénario. Puis qu'il y a des producteurs qui se sont mis là-dedans, puis des, tu sais, Disney s'est mis là-dedans, puis ça fait en sorte que ça s'en va à gauche, à droite, puis qu'il n'y a aucune ligne conductrice.
Laisse-moi penser à des films faits par Disney qui ont souffert de ça dernièrement, dans les dernières années. Mais ça serait pas les pros, tu sais. Ça m'étonnerait pas du tout.
Ça serait une bonne question du geek, ça. Nomme-moi la quantité de films.
Mais,
non, c'est ça.
Ben c'est plein de belles choses philosophiques. Puis c'est ça, ça vaudrait la peine. Puis tu sais, pendant que tu me parlais de ça, ça m'a popé dans la tête. Est-ce que la solution pour faire vraiment une série... Moi, je pense qu'une série, ça serait plus... L'univers de Tron, ça serait plus adapté à une série, tu sais. Là, tu dis qu'il y avait une série d'animation, mais je pense que, tu sais, mettons qu'on veut revenir à Tron. Mettons que Disney décide, OK, on retourne. C'est vraiment l'animation le meilleur endroit. Parce que t'es pas pris avec les limitations. Parce que même avec la technologie aujourd'hui et tous les effets spéciaux, un film comme Tron demande une quantité d'effets spéciaux incroyable, tu sais. Plus que, je pense, ben d'autres. Plus que Star Wars.
Mais vraiment, tu devrais aller écouter cette série-là de Tron. Je vais essayer de retrouver le nom. Uprising. Tron Uprising, 2012-2013. 19 épisodes. Et puis, l'esthétique des graphiques me fait beaucoup penser à une autre série télévisée que je t'avais fortement conseillé d'écouter, que tu n'as probablement pas écouté de toute façon. Mais c'était Aeon Flux. Une série des années 80 qui a évidemment créé le film qu'on connaît avec Charlize Theron. Mais c'est ça, ce genre d'esthétique-là, des bonhommes avec des proportions un peu weird, des jambes sont beaucoup trop longues. Mais tu sais, dans un monde de programmes, ça fonctionne super bien. Puis évidemment, les contrastes de couleurs, de lumière et de ténèbres, ça fonctionne à fond dans le dessin animé.
C'est clair.
Ça vaut vraiment la peine. Je pense que...
Mais,
voilà.
Tu sais, moi en tout cas, une dernière affaire que j'aimerais parler de l'histoire qui m'a gossé notre scénario, c'est justement, tu sais, t'as le grid, qui est cette petite ville-là, là, OK? Et là, t'as un monde assez vaste là autour. Pourquoi Clou, il veut aller envahir la Terre? Il est même pas sorti de son petit carré dans lequel il vit, tu sais. Je veux dire, il aurait pu décider juste de... OK, là, on construit puis on s'approprie notre monde. Non, lui, le gars qui a été créé simplement pour faire un système parfait, il se met à dire, non, on va aller envahir la Terre. Mais non, c'est ton système, il est pas parfait. Là, ton système, il est vide. T'as plein d'espace, là, tu utilises là. C'est juste ça, tu fais comme... Ah... Ouais. Ça aussi, ça m'a gossé. Là.
Je suis d'accord. On parle des acteurs?
Oui! On va commencer par le premier, Garrett Hedlund, qui fait Sam Flynn.
Le personnage principal, notre héros.
Je suis d'accord avec toi.
Je pourrais pas plus m'en foutre. Mais tu sais, c'est tellement... Comment je pourrais dire ça? Dans tous les arts, que ça soit en musique, que ça soit en magie, que ça soit au cinéma, que ça soit en peinture, que ça soit... Quel autre art je connais un peu? En tout cas, dans beaucoup d'art, l'excellence est vraiment difficile à atteindre. La médiocrité, faut quasiment que tu te forces. T'sais. Ça fait en sorte qu'il y a tellement de gens qui tombent entre les deux.
Dans l'indifférence.
Dans l'indifférence. Est-ce que sa performance à Garrett Hedlund est mauvaise? Non. Elle n'est pas mauvaise. Est-ce qu'elle est bonne? Vraiment pas. Quand il est dans le monde réel au début, il y a l'espèce de conversation avec le garde de sécurité là, sur l'espèce de
jeu
en métal. Là, ça va bien partir ce film-là. Hey, c'est intéressant. Down the hill from there. Ah, ça, il n'y a plus rien. Là. Quand il essaie d'expliquer c'est quoi le soleil, à quoi heure. Arc!
C'est qu'il ne réussit pas à connecter avec les autres. Tu sais, c'est ça le problème. Puis je pense que c'est aussi pour ça que tu t'en fous totalement de lui. Parce que tu t'attaches pas à lui. Parce que lui, il s'attache à personne de toute façon. Fait que t'es comme tout le temps... ouais, y a rien qui fait que j'ai le goût de... Tu sais, il aurait pu crever. J'aurais pas été triste. J'aurais pas été heureux non plus. J'aurais été...
Parce que tu sais, je pense qu'il y a de la performance de l'acteur. Il y a aussi du design du personnage. T'sais, l'enfant qui a été abandonné par son père. Ouais. C'est pas un plus gros choc que ça quand il le retrouve dans cet univers-là. Puis il n'y a pas de scène plus intense de connexion entre le père et le fils. Il n'y a pas. C'est tout ce que vous nous offrez pour de vrai. Je sais pas, je trouve qu'il manque vraiment quelque chose. Il manque beaucoup de couches à ce personnage-là. Ouais. Jeff Bridges.
Écoute, moi, j'aime beaucoup Jeff Bridges. Et j'aime quand même ce qu'il fait dans Tron Legacy. Parce que j'ai une partie de ce qu'il fait. Je vais expliquer. Là, puis il y a une autre partie que c'est pas de sa faute. La partie qu'il contrôle, j'aime bien. Puis le fait que, justement, quand il trouve son fils, il y a une espèce de distance, il y a une espèce d'affaire. Parce que tu te rends compte que lui, là, dans les 20 dernières années, il a vraiment été ailleurs. Là, il a changé complètement. C'est plus la même personne que le Kevin Flynn de originalement parce que, ben c'est ça, il était pogné dans le grid pendant 20 ans. Puis sa manière de voir les choses a beaucoup changé. Fait que je trouve ça cool de le voir en espèce de vieux sage, tu sais.
Mais ouais, écoute, je pense que tu l'as pas mis dans les extraits. Fait que je vais me permettre de souligner la phrase absolument magnifique que Kevin Flynn sort, Jeff Bridges, c'est que, tu sais, il essaie de faire son maître Jedi, puis quand il s'en va chercher son fils, justement, au bar, puis là, tout pète après la bataille, puis ça, puis là, Kevin Flynn, il se retourne vers son fils, puis il dit, « Man, you're really messing with my Zen thing. »
Ouais, ouais. C'est vrai, j'aurais pu le mettre, ça. Je vais pas penser.
Ça, je trouve que c'est une phrase là, absolument magnifique. Mon affaire Zen, là, qui est en train de chaper ça dans les rêves.
Les enfants, c'est bon pour ça. Mais j'aime pas quand il y a les espèces de relents du premier film, là. Puis il sort des expressions des années 80, là. J'en ai mis un dans des extraits. Ça me gosse. Parce que ça casse le Kevin Flynn qu'on a amené. Puis tu sais, on parlait du Kevin Flynn Dieu. Puis c'est ça qu'on veut voir, là.
Mm-hmm.
Tu sais, comme tu disais.
Parce que ça, c'est un autre qui arrive. Excuse-moi, je te coupe la parole. Ouais, vas-y. C'est un autre affaire qui arrive souvent dans les films. C'est comme si le personnage avait jamais évolué entre le film de 82 puis le film de 2010. Hey, il y a 30 ans entre les deux.
Ouais.
J'ai rien à... Ben évidemment, j'arrive à 40 ans, non, mais... J'ai rien à voir avec la personne que j'étais il y a 15 ans.
Non, c'est ça.
Fait 30 ans, hein? Voyons donc. Excuse-moi, j'ai coupé la parole.
Mais tu sais, je suis sur ce que tu dis. Le problème, quant à moi, c'est qu'ils... Oui, ils l'ont fait changer, mais ils veulent le faire pas trop changer pour qu'on se souvienne de... Puis tu fais comme, ouais, mais Tron, c'est sorti début des années 80, là. On s'en fout, là. T'es 30 ans plus tard. Il y a beaucoup de jeunes qui vont aller voir le film qui ont jamais vu Tron.
Mm-hmm.
Fait que je trouve ça plate.
Absolument.
Puis tu sais, ça revient, c'est un lien à ce qu'on disait tantôt, tu sais, un manque de constance, un manque de connecter les morceaux comme il faut.
Mm-hmm.
Olivia Wilde, elle, qu'est-ce que t'en penses?
Ben, c'est un peu le même problème du point de vue du concept du personnage. C'est quelqu'un qu'on s'en fout, tu sais. C'est supposé d'être la dernière juive de la guerre mondiale, tu sais. C'est supposé être la dernière survivante. Qui est super frette par rapport à ça. Tu sais, elle est... Donc, c'est ça, les ISOS? En tout cas.
ISO.
sont supposés d'avoir été comme générés spontanément de l'univers, une nouvelle race, de nouvelle forme de vie, tout ça. Puis... Ah, ok, ben, je suis la dernière, là, c'est beau.
Ouais.
Hein?
Elle s'en fout rapidement des autres, qui étaient comme des milliards.
Elle s'en fout rapidement. Mais je trouve ça weird. La performance de l'actrice, Olivia Wilde, ils ont engagé une belle fille pour qu'elle soit cute dans le film, puis elle réussit vraiment très, très, très bien à ça. Là. Mais.
Elle a eu talent. Mais...
Tu sais que tous les acteurs qui jouent un programme se sont fait mettre des verres de contact
ouais.
pour faire ressortir des yeux d'une couleur weird, sauf elle.
Elle n'a pas besoin.
Elle n'a pas besoin. Parce que ses yeux sont trop intenses d'emblée. Mais c'est ça, tu sais, j'aurais vraiment aimé que ça soit une grande performance d'actrice puis pouvoir dire quelque chose de bien d'une femme qui joue un rôle de belle fille puis qui nous amène vraiment quelque chose de nouveau. Mais malheureusement, c'est encore un autre film où est-ce qu'on a une belle fille pour avoir une belle fille.
Mais ce que
j'ai... Ça rajoute absolument rien non plus à l'intrigue. Là.
Non, vraiment pas. Mais je dois te dire une affaire que j'ai aimée, c'est par contre qu'elle fait bien, là. C'est qu'il y a comme un côté très naïf.
Ouais.
Puis c'est normal, tu sais, tu t'attends qu'il y ait une forme, tu sais, c'est comme une forme de vie un peu nouvelle, cette affaire, puis elle est comme pas tout expérimentée dans la vie, puis elle comprend pas exactement les affaires. Fait que j'aime ça quand elle est comme ça. Tu sais, quand elle fait ça, c'est vraiment... Mais c'est pas assez souvent comme ça.
Ouais.
Tu sais, la peinture pleine, quand ils arrivent, ils sont sur Terre, là, c'est juste elle qui embarque sa moto, puis on y va. Man, je veux dire, elle devrait capoter. Là. Elle devrait être comme...
Ouais!
Ouais,
je suis vraiment d'accord. Parce que c'est vrai que quand on la rencontre la première fois, elle finit par enlever son masque, tout ça, puis elle a une espèce de rire, de candeur qui est vraiment bien, qui est vraiment juste. Tu sais, je trouve que dans l'acting, de ma grande connaissance de ce qui est l'art dramatique, je trouve ça vraiment très bon. Mais c'est ça, on ne joue pas du tout là-dessus.
Voilà. Maintenant, Michael Sheen. Zeus. Ou Castor. Ça dépend. C'est la même personne. En tout cas, je sais pas toi, mais pour moi, c'est la star du film. Là.
Ah oui, c'est écœurant. C'est écœurant. Mais tu sais, vois-tu, c'est ça que je trouve weird. C'est que, tu sais, c'est un personnage secondaire. Là. On le voit quelques scènes, pendant quelques minutes à l'écran, tu sais. Mais, subitement, il y a un immense background. Puis, tu sais, tu connais d'où? Ah, c'est une longue histoire, ça remonte à loin, tu sais. Et voilà, alors, j'en voulais pas plus.
Ouais.
Juste une petite phrase de « Ah, ben, tu sais. » Puis c'est pas expliqué après. Si on peut essayer... Non, non. C'est comme slack, c'est laissé là, comme ça, puis... Ah. Puis visuellement, c'est un personnage qui a l'air très différent des autres. Il y a son espèce de symbole dans le front que personne d'autre a. Qui est super subtil, tu sais. Tu fais pas vraiment attention, tu peux ne pas le remarquer. Puis il y a une espèce de... Quand on parle de personnages avec plusieurs couches, tu sais, lui, il y en a, on sent qu'il y en a une, ouais. Puis une deuxième, puis une autre en dessous, tu sais. Du fait, évidemment, qu'il y a, donc, c'est un personnage à double face, mais aussi du fait qu'il y a un passé, puis on sent qu'il y a des racines, tu sais, dans cet univers-là. Ah non, c'est magnifique. C'est magnifique.
Le fait que Michael Sheen, tu sais, il y a beaucoup de... Dans toute sa façon de jouer le personnage, c'est très riche. Il y a beaucoup de manières dans sa manière de bouger, sa manière de parler, sa manière de regarder tout ce qui se passe. Ce que ça fait, c'est qu'avec les petits hints que le film te donne, tout à coup, toi, tu te mets dans ta tête à écrire un background et à dire « Hey, tu vas voir ça. » C'est ça qui rend intéressant. Tu sais. C'est ça qui fait qu'on n'a pas besoin de tout te dire. Puis c'est ça. Tu sais, c'est ça que je veux. Mais tu as besoin d'un acteur qui a ça. Et moi, je pense aussi ce qui a changé, c'est que j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup plus de liberté que les autres.
Du fait que, ouais, c'est un nouveau personnage, ça s'en va pas nulle part. Vas-y, tu fais un peu ce que tu veux, alors que c'était loin de ça pour le personnage de Kevin Flynn, mettons.
C'est ça, tu sais. Et je voulais faire une petite mention honorable à la fin à James Frain qui fait Jarvis. C'est cette espèce d'assistant là, de clown. Là, de dude, de... Ce gars-là, il joue tout le temps des personnages de même dans tous les films qu'il fait. Là, mais c'était juste pour ça que je voulais le mentionner.
On a oublié de parler de Bruce Boxleitner.
Ah, Bruce Boxleitner, c'est... juste qu'il fait... Ils l'ont...
Non, on le voit pas très longtemps non plus.
Mais... Moi, j'ai l'impression qu'ils l'ont amené parce que c'est ça, il était obligé. Fallait que tu ramènes Alan Bradley.
Ouais, c'est ça. Puis on a déjà un peu parlé des effets spéciaux tantôt, mais donc Clou, la face, c'est pas la grande affaire. Mais sinon, tout ce qui est effet visuel, parce qu'on peut mélanger ça un peu avec les décors, les costumes. Évidemment, c'est tout un film qui a été fait devant des écrans. Puis on rentre, c'est mieux à mieux. Mais il faut absolument qu'on parle des costumes. C'est ce qui m'avait frappé au cinéma il y a 10 ans, puis c'est ce qui m'a encore frappé cette semaine quand j'ai écouté ce film-là. Man, c'est bon.
Man,
c'est tellement.
Tu sais, Kevin Flynn, son espèce de truc noir qui.
Ouais, en... Sa cape de Jedi, là.
Ouais. Puis en dessous, c'est une. De la lumière.
C'est beau.
C'était écœurant.
C'est tellement magnifique. Vraiment, bravo au designer qui a dessiné ça. Puis tu sais, tous les costumes, la façon. Quand. Sam Flynn arrive sur le grid, il se fait mettre dans une espèce de salle où est-ce qu'il y a des filles qui le déshabillent puis qui l'habillent avec son sou de tronc, essentiellement. Et puis, mais la façon dont le sou s'anime en même temps qu'il met des parties rigides, comme un peu comme l'armure de Iron Man, tu sais, à moitié vrai, à moitié CGI. Fait que, oh non, mais c'est beau, là, c'est beau. Puis justement, la fille qui l'avait, puis qu'on revoit un peu plus tard dans le bar avec Zeus Caster, la fille qui est en blanc, avec un parapluie, même s'il pleut pas. Le design de ce personnage-là, le costume en latex, évidemment, c'est... Bon. Mais tu sais, avec le chignon, les yeux bleus... Avec Zeus Caster, justement, qui lui aussi est complètement blanc, mais avec les cheveux longs, puis remonter un peu. En tout cas, les costumes, le design visuel des personnages, c'est hallucinant.
Il y a deux scènes, pour moi, qui montrent... Moi, pour moi, ce film-là, c'est un chef-d'œuvre visuel, d'esthétique, là, c'est incroyable. Mais il y a deux scènes qui capturent, qui résument ça, pour moi. La scène, justement, que t'as dit, quand il arrive, puis t'es en train de se faire habiller, la manière que les quatre filles sortent de l'espèce de truc du mur, puis qu'ils marchent toutes ensemble à la même vitesse, avec la même affaire, le même type de pas, la même... Ça, visuellement, c'est incroyable, puis c'est ça, puis la scène du bar à Zeus, là, toute cette affaire-là, avec le combat après, tout ça, c'est vraiment esthétiquement... Juste quand ils rentrent, puis tu vois les gens autour, là, tu fais comme... Wow! OK, là, tu sais... C'est pour ça que je parle de l'univers, mais ça... C'est ça, c'est un peu comme quand un bon film de Star Wars, puis ils vont dans une cantina, une affaire de même.
Une cantina, ouais.
Puis là, tu vois les extraterrestres, t'es comme... Ouh! C'est qui, lui? C'est qui? C'est ça.
C'est quoi son histoire à lui?
Ouais, c'est...
Mais justement, quand ils arrivent dans ce bar-là, puis ils s'en vont voir Caster, en fait, à ce moment-là, et puis Caster est en train de parler avec un programme, puis là, il parle de rébellion, puis il parle aussi de ça. Puis là, quand Sam Flynn arrive, c'est le premier, ce programme sans nom-là, c'est le premier à monter au combat, ouais. Tu sais, pour protéger le Fils de Dieu, man. C'est Jésus qui est là, là.
Ah, c'est malade, là. C'est cool.
C'est comme subitement l'univers vient de prendre une proportion. Ça vient d'exploser. C'est le Big Bang tout d'un coup, là. Puis là, après ça, là,
ça crash avec l'ascenseur. Bon, hey, je vais me faire poser une question. Watch me planter.
non, c'est pas trop difficile là, ce soir. C'est pas trop difficile. Je vais t'expliquer d'abord comment je vais compter les points de cette question-là. C'est vraiment pas si compliqué, mais... Je vais te demander 5 titres de films.
OK.
À chaque titre de film, c'est 2 points. Donc, ça va donner un résultat sur 10. Tu peux me demander des indices, auquel cas, je vais te lire un synopsis de film.
OK.
Et à ce moment-là, tu n'as droit qu'à 1 point si tu réussis à me donner une bonne réponse. OK? Donc, ma question est la suivante. Jeff Bridges, un acteur que toi et moi, on adore. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de films de geek. Nomme-moi 5.
Les films de geek. Est-ce que The Big Lebowski, ça compte comme un film de geek?
Oui,
super.
Oui. Ben, parce que j'entends film de geek, des films qu'on pourrait voir à Vision X. Ou qu'on a déjà vu à Vision X.
C'est ça, je sais qu'on a déjà vu d'autres films avec lui. Ben, il y a le premier Tron.
ouais, non, on va laisser la franchise de Tron. Ça ne te dérange pas, là.
Hey, c'est shit. Pas hey, là, j'ai comme un blank. OK, donne-moi un indice. On s'en va.
Je vais aller te lire un synopsis tiré directement de IMDb. Évidemment, je ne dirai pas le nom des films quand ils sont dans le synopsis. Okay? Donc, after the... headquarters are destroyed and the world is held hostage. An allied spy organization in the United States is discovered. These two elite secret organizations must band together to defeat a common enemy.
Attends.
C'est un film de 2017.
Jeff Britt. C'est sûr que genre...
Gros indice supplémentaire gratuitement juste pour toi.
Parce que je fais pitié.
Le personnage principal, c'est Taron Egerton.
Hein? Ben voyons. Je sais de quoi tu parles, mais je sais plus c'est quoi de quoi tu parles. C'est quoi?
C'est Kingsman, The Golden Circle.
C'est bol.
Il joue le chef de l'organisation américaine.
Oh, c'est bon. Je suis bien poche.
C'est tout ce qu'on va dire là-dessus. T'en veux-tu un autre?
Ouais, continue à m'humilier, vas-y. Let's go. Je perds tout mon cred. Mais...
After being held captive in an Afghan cave, billionaire engineer...
Ah, ben là, ça, c'est Iron Man. Il fait Jebediah chose, là.
Jebediah, machin truc, là. Obadiah,
ouais. Ben, Jebediah, même affaire, Bedaya. Toutes les Bedaya sont pareils.
Et donc, ouais, il jouait dans, dans Iron Man. Ensuite de ça, on va t'en sortir un autre, pas trop difficile. film de 2013 avec Ryan Reynolds. Donc, le synopsis, « A recently slain cop joins a team of undead police officers working for the West in... and tries to find the man who murdered him. »
C'est pas quelque chose PD, genre?
Ouais,
mais je me souviens plus du reste avant. Ah, ça, c'est...
Rest in Peace Department.
Ouais.
C'est ça. Et finalement, qu'est-ce que je pourrais te sortir? Parce qu'il y en a plein, en fait. When Mother Malkin, the Queen of Evil Witches, escapes the pit she was imprisoned in by the professional monster hunter Spook decades ago and kills his apprentice, he recruits young Tom, the seventh son of the seventh son, to help him. Je vais te le donner en plus.
The seventh son?
Ouais, c'est ça.
Hey, j'ai jamais vu ça. C'est bon?
5 sur 10, mon cher Sébastien.
Yeah.
Mais, ben, évidemment, Jeff Bridges, il y en a.
Ah, là, mais ça n'a pas de bon sens.
Qui est fait, non? Mais on aurait pu parler de. Comment c'est. Je ne sais pas pourquoi mon IMDB il est en français. J'ai juste étudié en français. Saltan à l'hôtel El Royal.
Ah, ben oui.
Je ne sais pas si tu comprends. Qui est sorti en 2018. Kingsman, on en a parlé.
Il a joué dans King Kong en 1976.
Ensuite de ça, le Seven Son en 2014.
Last Unicorn.
Rest in Peace Department en 2013. True Grit en 2010. Ouais. On aurait pu parler de. Je descends vite là. Iron Man.
Il a joué dans K-Pax.
K-Pax. K-Pax, j'y arrivais en 2001. On aurait pu parler. En tout cas, il y en a rien quand même une quantité là.
Ah, il a joué dans la version en anglais de Little Prince. C'est lui qui fait la vie.
Oui, effectivement. Effectivement, t'aurais pu dire ça aussi. Il a aussi joué dans Starman.
Ouais.
En 84, c'était lui Starman.
King
The Last Unicorn.
Ouais. Ça, c'est la
dans The Last Unicorn. Je l'ai écouté cette semaine, c'est drôle. The Last Unicorn, c'est vraiment cool. Ouais, c'est ça. Bon, ça fait le tour un peu.
Ah, il a 70 ans.
Ouais, quand même. 5 sur 10 pour toi, Sébastien, cette semaine.
J'ai oublié, mais. Ah, ouais. Now you've had... Non, c'est pas ça. Ça, c'est Bob Barker. C'est un restant de Happy Gilmore l'autre jour. You lose! Good day, sir! Je manque de pratique. Maintenant, les extraits. Donc, j'ai pas pris beaucoup d'extraits. On dirait que c'est assez, j'ai de la misère à trouver des extraits d'un film. Je suis comme. Je manque de pratique, tu sais. Quand on faisait des visions avec ça chaque semaine, c'était comme. Je spotais tout de suite des affaires, là. Maintenant, le premier, on parle d'odeur.
I smell like jail.
C'est quoi que ça sent, ça?
C'est exactement la question que je me suis posée quand il dit ça. C'est pour ça que j'ai...
C'est la moitié du sperme, puis du caca, puis de la pisse. Puis,
J'osais pas le dire, mais bon. maintenant, tu vois, ça, c'est un beau moment de candeur de Quora.
Ouais.
Ça, c'est, j'en aurais pris plus de ça, tu sais.
Do you know Jules Verne?
Sure.
What's he like?
La joke était quand même assez facile, mais il fallait qu'il la fasse.
Ouais. Mais c'est cool, c'est de la voir, puis comment elle est tellement comme... Tu sais, tu connais Jules Verne?
Puis, ah oui, là, je viens d'allumer. C'est quoi le prochain extrait? C'est dans la lignée de nos classiques de Vision X.
Oui, parce que tu vois,
wow.
Avec quand je fais les la version sport des Vision X Sport avec François, j'ai jamais pris de rire. Mais là, cette semaine, quand je prépare, tu sais, j'écoutais l'émission, j'étais comme, écoute, on revient avec notre classique Vision X. J'étais comme, ça nous prend nos rires. Fait que le premier rire que j'ai pris.
Tu vois, tantôt, là, c'est exactement de ça dont je parlais. Quand on disait que ses rires, sa candeur, tu vois, elle se met à rire dans un souper tellement awkward. Ouais. Sa lecture de la situation est vraiment pas bonne.
Vraiment pas bonne.
Ça, c'est un très beau moment, ça.
Parce qu'il y a vraiment une espèce d'atmosphère de comme... tu sais, puis... T'es comme, ah.
C'est bien parce que dans ton extrait, on entend le bruit des ustensiles en même temps. Fais le voir.
Ouais, c'est vrai. Les autres sont comme. Ok.
Wow.
Le deuxième rire, je sais pas c'est qui. Ah, je pense que c'est Kevin Flynn. Je pense. Mais.
Ouais, c'est ça.
Mais je l'ai pris lui, mais j'ai fait. Y a-t-il quelqu'un qui rit de même dans la vie, pour vrai? C'est comme.
Non, ça a l'air d'un rire forcé un peu, je trouve.
Tu sais, c'est un rire coït interrompu. Genre. Il se rend jamais. Tu sais. En tout cas. Maintenant, je voulais vraiment illustrer comment il était bon, Michael Sheen. Et c'est l'extrait qui s'en vient. Oui, il y a beaucoup de musique. C'est une affaire que j'ai remarqué, puis la musique est très oppressante dans la... c'est vraiment un anglicisme que j'ai... Dans, genre, elle est comme plus en avant que la voix dans le film, puis que le son. Fait qu'à chaque fois que j'ai pris des extraits qu'il y avait de la musique dedans, c'est comme, ouf, tu sais, faut écouter parce que la musique est tellement tout le temps dans le tapis. Mais c'est, ça, c'était juste pour moi un moment de... C'est ça, de me montrer... Et c'est incroyable la scène, tout le monde se bat là, puis lui il est comme juste ah, puis genre c'est ça, le fils de Dieu.
Ah non, c'est magnifique.
Et maintenant pour terminer, c'est une affaire qui me gosse. Tu sais ce que je te disais tantôt là, quand il sort ses expressions des années 80 là. Kevin Flynn, pourquoi tu sais?
Il aurait dû dire pug.
Non mais
ça... Non, c'est vrai. Il me semble que dans le tronc original, il disait ça pas mal, dude.
Oh, les pupilles, ça.
Non, ça marche plus.
Mais.
En tout cas.
Ce qui me gosse, c'est qu'il change sa voix. Je sais pas si t'as remarqué, il change sa voix pour sonner comme sa voix de 30 ans plus tôt. Parce que l'affaire, c'est quand t'arrives en vieillissant, ta voix change. Fait que tu sais, ce qui fait aussi que ça marche pas quand Clou il parle. Tu sais, Clou il a une voix d'un gars de 60 ans.
Oui.
Et on va y aller avec
ça, oui.
La musique, ton bumper préféré.
Cue the music. Yeah. J'aime la musique.
Oh, je l'avais oublié celle-là. Oh, ça me fait du bien, Sébastien. Ça me fait beaucoup de bien. Ça.
Tu sais que je l'ai dit souvent, je sais que j'ai dit souvent à l'émission, mais. Le fait qu'on entende le vent, tu sais, qui sort, tu sais, le gars, il joue de la flûte de nez vraiment intense, là. Tu t'entends que... dans le micro, là.
Ah. Oh, magnifique.
Donc, Daft Punk qui a fait la musique. Moi, là, j'adore la trame sonore de ce film-là. Je l'ai acheté.
Non, mais il faut parler. Je me suis vraiment mordu tantôt, là, pour pas qu'on parle tout de suite de, encore une fois, la scène du bar, où est-ce que les DJ qui sont en train de faire la musique, et c'est Daft Punk.
Ouais.
Même pas déguisé. Ben, déguisé ben... de leur costume normaux, là.
Ça fit!
C'est carré, ça fit, c'est parfait. Tout fonctionne. Tout fonctionne. Puis, tu sais, la bande sonore de Tron Legacy, je l'ai achetée, puis je l'écoute encore régulièrement. Ouais. Tu sais, quand tu fais de la route le soir, tu sais, ben, je t'en fais peut-être un peu moins que moi, là, mais quand je reviens des concerts à Drummondville, puis à Trois-Rivières, puis à Sherbrooke, après concert, je reviens, il est rendu 1h du matin, je fais de la route, je suis à 120 sur l'autoroute, pardon, 118 sur l'autoroute, et puis je mets du Daft Punk dans le tapis, là, puis cette trame sonore-là, puis Adagio for Tron, mettons, ça fonctionne, là, c'est absolument fantastique. Émile, mon fils, il s'endort suite quand je mets ça dans l'auto.
Ouais, mais c'est fantastique. Il y a quelque chose de... Ben, tu sais, on va en parler encore de la scène. Cette scène-là, la musique est écœurante, là. Surtout parce que ce qui est cool, c'est comment ils utilisent la musique pour, tu sais, changer l'ambiance. Tu sais, il arrive, il y a une musique, là, tu sais, Caster, il dit, OK, changez ça, tu sais, electrified them. Là, ça devient, oups, tu sais, vraiment plus électronique. Puis là, quand le combat embarque, là, ça pogne une coche de plus. Cette tune-là est écœurante. C'est tellement bien construit. Mais ce que j'aime... c'est le côté combinaison musique minimaliste,
mm-hmm.
tu sais, avec l'électronique puis tout ça, ça crée une espèce d'atmosphère tellement planant, mais t'es dans une... c'est ça, je comprends que ton gars il s'endort avec ça là, parce que t'es vraiment dans ça là, t'es dans le wow, tu flottes.
Vous irez écouter la
hop
je... la chanson les je... bits.
Ta minute, on te perd un peu, t'as un peu de lag. Ah, c'est bon, vas-y.
Ouais.
Tu peux... Okay.
Fait que la chanson de Joe Patron, ça commence avec juste des bips. Ça finit par faire un motif mélodico-harmonique. Mais, quelle efficacité. Visuel et auditif.
Ouais. On va y aller pour la note.
He scores!
Vas-y, David.
Vas-y, Sébastien. Parce qu'on va avoir le même score.
Moi, j'ai dit 7 sur 10. Et simplement, tu sais, ce que j'ai écrit dans les notes, c'est... L'histoire est poche. Le film, il mérite pas d'avoir 7 sur 10. Il devrait pas avoir 7 sur 10. C'est juste qu'il y a tellement des choses intéressantes, tellement beau visuellement, que je donne 7 points sur 10 juste pour ça, malgré l'histoire de bande.
Ben, c'est un peu la raison pour laquelle moi aussi je donne 7 sur 10. C'est un peu ce que je disais au tout début de l'épisode. C'est un bon film, mais c'est pas un grand film. T'sais. Ça mérite pas un 8 ou un 9 sur 10, mais ça mérite pas non plus un 6 ou un 5. T'sais. Fait qu'il y aurait juste le 7 par défaut. T'sais. C'est ça. C'est un peu aussi ce que je disais sur tous les arts. C'est difficile d'avoir de l'excellence.
Ouais.
Il faut quasiment se forcer pour être vraiment pourri. Comme j'ai vu dans les épisodes de Vision X qu'on a déjà fait, il y avait Birdemic, Shock and Terror.
Ah, mais ce film-là, c'est une œuvre d'art de la merde.
Ah non, c'est magnifique. Fait que là, ouais, 7 sur 10. 7 sur 10.
Allez faire un tour sur Patreon à patreon.com/sbalbino pour nous... excusez, pour nous aider, contribuer à payer les frais de l'émission, ça nous fait toujours plaisir. Puis ceux qui ne peuvent pas, ben ce que vous faites, c'est que vous allez, peu importe où vous trouvez l'émission, vous nous laissez 5 étoiles, ça va, on va vous aimer et vous être éternellement reconnaissant. Si vous avez des commentaires, écrivez-nous à visionxcast@gmail.com. Vous pouvez nous suivre sur moi-geek.com, je crois. Sur Facebook, à Vision X. Je sais plus quoi, notre Facebook Vision X Podcast. Moi, je pense que c'est Vision X Podcast pour Facebook. Là-dessus, le prochain épisode, ça sera sur quelque chose. Un film qu'on va choisir entre temps.
Mais c'est bon parce qu'on voit que le dernier épisode qu'on a essayé d'enregistrer et qui n'a pas fonctionné, c'est sur The Phantom avec.
Ah, ouais.
Avec. Voyons, Billy Zane.
Fait que ça sera sur quelque chose, on va vous le dire. Là-dessus, bonne semaine. Merci beaucoup, David.
Merci à toi, Sébastien.
Et à la prochaine.